France Culture.
C'est un changement de cap qui a fait couler beaucoup d'encre. Depuis le 1er janvier 2025, tous les allocataires du RSA, le revenu de solidarité active, doivent désormais effectuer 15 heures d'activité par semaine. Une extension à tout le territoire décidée après des expérimentations dans des départements tests et qui entend faire de ce minimum social une véritable politique de l'emploi. Mais quel levier activer face à une population aussi spécifique qu'est celle des allocataires du RSA ? Les raisons qui expliquent l'éloignement durable vis-à-vis du marché du travail sont-elles compatibles avec cette organisation nouvelle supposée apporter un suivi plus efficace des parcours professionnels ? La figure de l'allocataire se confond-elle avec celle du chômeur ? Retour aujourd'hui sur les raisons et les effets de la mise au conditionnel de la solidarité dans cette émission préparée et programmée par Diane Devancet, mise en onde par Dalia et réalisée par Françoise Le Floch.
Nous devons travailler plus. Premier objectif pour travailler plus, c'est le plein emploi. Cet objectif est atteignable. Il consiste à faire, dans les 5 ans qui viennent, ce que nous avons fait dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Et donc, je considère que, en prenant cet engagement, je suis volontariste, mais réaliste, parce que je peux m'appuyer sur les résultats que nous avons collectivement obtenus durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Ce sera la réforme de ce qui est aujourd'hui le RSA pour aller vers un revenu d'activité, en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs. Au fond, ce que je veux qu'on puisse mettre en œuvre, de manière très cohérente d'ailleurs avec ce qu'on a fait avec le plan pauvreté, ce qui a été mis en œuvre de manière expérimentale dans plusieurs territoires, je pense en particulier dans le Nord, c'est de se dire que les bénéficiaires du RSA aujourd'hui ont en quelque sorte été les victimes de notre mauvaise organisation collective. Et notre nation s'est organisée d'abord en divisant les compétences, puisqu'on a dit on décentralise la compétence, en même temps la prestation elle est liquidée par les caisses d'allocation familiale, donc personne n'était vraiment en charge. Et on a dit la solidarité de la nation c'est une prestation qu'on verse. Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation. Et donc il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent, parce qu'il y a beaucoup aussi de situations qui sont empêchées, mais leur permettre justement de pouvoir prendre leur part. Et donc, il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement.
Moi, si je suis au RSA, c'est aussi parce que j'ai des gros soucis de santé mentale et de maladie mentale, et j'ai peur qu'on me demande d'aller travailler pour restaurer un cimetière communal. Là, pour l'instant, France Travail m'a dit que j'allais devoir signer un contrat d'engagement dans lequel je m'engage à faire ces 15 heures hebdomadaires. Donc j'espère vraiment que de la recherche de CV ou du bénévolat suffiront.
Cette expérimentation qui a été menée dans jusqu'à 49 départements, auprès de 70 000 bénéficiaires, montrait que nous avions 45% de ces personnes qui étaient proches du marché du travail, proches du monde du travail. Et donc pour lesquelles il faut plutôt un accompagnement professionnel, une formation complémentaire. Il y avait ensuite de 25% des personnes qui ont besoin d'un accompagnement socio-professionnel. Typiquement, les vrais sujets, c'est le sujet de la garde d'enfants. Et puis, il y a effectivement 30% des personnes qui ont besoin d'un accompagnement social.
Devoir en plus rendre des comptes sur à quoi on passe son temps, c'est aussi une forme d'intrusion supplémentaire dans l'intimité. C'est pour ça que nous, on parle de contrôle social, en fait. C'est à quoi vous passez vos journées et est-ce que vous méritez bien l'aide qu'on prétend vous octroyer, quoi. Il y a un certain nombre de personnes qui vont de fait passer à la trappe parce qu'il n'y aura pas les moyens suffisants pour leur proposer des dispositifs d'insertion, de formation, etc. Donc quelque part, on va avoir cet arsenal de suivi, de contrôle, mais on n'aura pas la promesse d'un droit à un accompagnement de qualité et humain.
Anedou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maîtresse de conférences au CNAM, vous êtes chercheuse au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, le LISE, et également chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail. Avec nous également Julie Houdot, vous êtes doctorante en sociologie au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po. Votre thèse en cours de rédaction actuellement donc s'intitule « En attendant l'emploi, gestion de masse et encadrement individuel des allocataires du RSA ». Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Anedou, on l'entendait à l'instant. ans, cette fameuse réforme était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022. Elle a ensuite pris la forme d'une loi dite pour le plein emploi en décembre 2023, puis d'expérimentation dans 18 puis 47 départements à partir du 1er mars 2024, avant d'être généralisée à l'ensemble du pays à partir du 1er janvier 2025. Une question simple en apparence, mais fort complexe finalement dans ses... On va dire dans ces multiples arcanes pour commencer. Anedou, qu'est-ce que le RSA ? Est-ce un outil de lutte contre la pauvreté, un outil d'insertion sur le marché du travail, un complément de revenus ou tout ça à la fois ?
Un petit peu tout ça à la fois, je dirais. Donc le RSA, c'est d'abord une garantie de revenus qui est une garantie différentielle, c'est-à-dire que c'est en fait un complément des revenus du foyer dont le montant dépend de la composition du foyer et de ses ressources. Donc, par exemple, pour une personne seule, le RSA, c'est 635 euros, mais rarement une personne seule ne va percevoir 635 euros. Elle va percevoir la différence entre le revenu qu'elle a déjà et ses 635 euros. Et dès lors que si cette personne a un enfant, c'est majoré pour un enfant. Si c'est un couple, c'est aussi plus élevé, etc. Donc ça, c'est le premier aspect. La garantie de revenus, ça traduit un principe constitutionnel qui veut que chacun ait droit à un revenu convenable d'existence, que ce soit parce que cette personne ne peut pas travailler pour des raisons qui tiennent à ses capacités physiques, mentales ou à la situation économique. Donc c'est quelque chose de très large. Donc ça, je pense que c'est l'essentiel. Alors, outil de lutte contre la pauvreté, je dirais outil de lutte contre la pauvreté sévère, puisque le RSA fait rarement sortir de la pauvreté, donc c'est un revenu de complément pour les personnes pauvres, et c'est aussi un revenu d'insertion, puisque dès le départ, l'ancêtre du RSA, donc déjà le RSA, il prend place dans un ensemble de minima sociaux, et c'est le principal, et je dirais son ancêtre principal, c'est le RMI, le revenu minimum d'insertion, créée en 1989, remplacée en 2009 par le RSA, avec cette idée qu'il fallait davantage inciter les allocataires à travailler. Je crois que c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui.
Effectivement, Julie Oudot, le RSA, on le disait, est mis en place donc le 1er décembre 2008. Et il remplace le RMI ainsi que l'allocation parents isolés, l'API. Il est généralisé, vous le disiez, Anedou, à l'ensemble du territoire métropolitain en 2009, puis Outre-mer en 2011. Julie Oudot, quelle est l'essence, on va dire, de ce remplacement, on va dire, quelle est la justification de sa mise en place à cette époque-là ?
Alors au départ, comme ça a été souligné, c'était vraiment un dispositif de lutte contre la pauvreté. À la fin des années 80, l'objectif, voilà, c'était vraiment d'assurer un minimum social à tout individu, indépendamment en fait, de sa situation, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très progressivement, enfin même très rapidement, plutôt à partir des années 90, des critiques émergent à propos de ce dispositif RMI, parce que en fait, des allocataires se maintiennent notamment dans le dispositif, et donc le RMI est accusé de pas suffisamment accompagner vers l'emploi. Donc ça, c'est une critique qui apparaît en fait assez tôt et dans d'autres pays en fait au même moment de l'OCDE. Et en fait, ces critiques se multiplient et convergent vers l'idée qu'il faut trouver un dispositif qui accompagne davantage vers l'emploi. Et c'est ce qu'on retrouve encore dans les déclarations d'Emmanuel Macron qui font écho en fait à beaucoup de déclarations qui lui précèdent sur cet enjeu-là de l'emploi.
Et c'est ça qui est assez fascinant aussi dans cette histoire-là, Julie Oudot, c'est qu'on se rend bien compte qu'effectivement les problèmes qui se posaient pour le RMI ont été ensuite largement remis en lumière aussi lors du débat de la mise en place, puis les années qui ont suivi du RSA. Alors pour bien comprendre comment tout cela se cristallise, je vous propose d'écouter Michel Rocard qui défendait justement la mise en place du RMI devant l'Assemblée nationale. C'était le 29 juin 1988.
L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. Instaurer un droit au revenu minimum est une innovation d'une portée considérable. Oh, certes, le montant de l'aide sera insuffisant au regard du souhaitable, mais il offrira à tous ceux qui en disposeront une nouvelle chance, de nouveau un nouvel espoir, une nouvelle chance d'échapper à la misère, une chance de retrouver sa place dans le monde des autres. C'est pourquoi le revenu minimum doit être étroitement lié à un effort d'insertion. Cet effort s'adressera à certains qui n'ont même pas d'état civil, que l'illettrisme empêche de lire un formulaire ou de signer un chèque, que le repli sur soi a coupé depuis longtemps du monde extérieur. Dans d'autres cas, il s'agira de chômeurs depuis peu en fin de droit ou de familles provisoirement privées de toute ressource. Il nous faudra donc renouveler profondément nos habitudes de penser et d'agir pour être plus participatifs, moins cloisonnés, bref, mieux ouverts sur la société.
Année d'où la loi instituant le RMI est votée le 1er décembre 1988. On l'entendait dès le départ, ce dispositif est une forme de conditionnalité. Il doit être étroitement lié, pour reprendre les mots de Michel Rocard, à un effort d'insertion. Déjà, le débat porte sur l'utilité de la chose. Et là, Année d'où, et vous le dites d'ailleurs dans un de vos articles qui est passionnant à ce sujet, c'est que ça s'inscrit dans un contexte aussi plus global des années 90, où il y a ce concept d'état social actif qui émerge. Alors, quel est ce concept et puis quelles vont être ses conséquences très concrètement?
Alors, je pense qu'il y a quand même une différence entre le moment où le RMI se met en place et aujourd'hui, et peut-être que l'histoire bégaye d'ailleurs, parce qu'au moment, cette déclaration de Rocard, elle prend place à un moment où le chômage avait beaucoup monté et où les réformes de l'assurance chômage, déjà à la fin des années 70 et au début des années 80, avait vraiment érodé les droits des chômeurs. Donc on découvrait ce qu'on appelait la grande exclusion, les exclus, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de droits, etc. Et à l'époque du RMI, on le perçoit pas là dans ses propos de Rocard, mais on le perçoit vraiment dans les débats parlementaires. L'insertion, c'était pas un devoir de l'individu, c'était un devoir de la collectivité tout entière. On avait bien des débats gauche-droite où la droite disait qu'est-ce que c'est que ce revenu sans contrepartie, mais le sens de l'insertion était un sens très lâche. Ça pouvait être une insertion sociale, quelque chose de très global, l'accès à la santé, etc., autant qu'une insertion professionnelle. Et c'est dans les années 90, comme vous l'avez dit, que ça se retourne et que finalement on va accuser le RMI d'être responsable d'une pauvreté qui dure et d'efforts insuffisants d'insertion, et du coup les individus eux-mêmes, les allocataires du RMI vont être perçus comme responsables de leur situation. Et c'est bien ça la réforme RSA en 2009, l'idée qu'on va transférer sur les allocataires la responsabilité de leur insertion. Et finalement, l'histoire bégaye, puisque aujourd'hui, avec la réforme de France Travail et tout ce qu'elle trimballe de changements autour du RSA, on a bien l'idée qu'il s'agit de responsabiliser davantage les individus, de les activer, c'est-à-dire de les mettre en activité 15 heures par semaine.
Et il est vrai que si on regarde les archives de cette époque-là, il y avait notamment le porte-parole du PS qui faisait le constat que le I de RMI ne fonctionnait pas, et après chacun était bien libre de comprendre quelles en étaient les causes, si c'était au niveau individuel ou au niveau étatique et de l'encadrement plus général et de l'accompagnement. De fait, Julie Oudot, on finit par se rendre compte que le mécanisme se grippe, en tout cas qu'il ne porte pas les fruits qu'on espérait lui faire porter. Est-ce que c'est vraiment à cela que le RSA est censé répondre lors de sa mise en place?
Oui, tout à fait. Mais même pour revenir encore un tout petit moment sur la prise de parole de Michel Rocard, c'est vrai que c'est assez émouvant en fait de l'entendre parler à ce moment-là de la nécessité d'un RMI. On voit malgré tout que même si la question d'emploi était déjà mentionnée, enfin, elle a toujours été présente en fait dans les débats parlementaires, dans les prises de position. L'enjeu alors du moment, c'était vraiment la pauvreté et effectivement les exclus, l'exclusion. Et donc en fait, quand on a voté le RMI, contrairement à maintenant, il y a beaucoup de débats et beaucoup de critiques en fait du RSA. À l'époque, il y avait plutôt un consensus politique et public en fait, collectif, sur l'idée qu'il fallait en fait secourir, revenir aux besoins en fait des plus démunis. L'opinion publique était très favorable, en fait. Donc, pour le rappeler aussi un peu, les Français pensaient pas du tout à l'époque que le RMI allait conduire les gens à ne pas vouloir travailler, etc., mais estimaient au contraire que ça allait donner, pour reprendre un peu les études qui étaient à l'époque, le coup de pouce nécessaire pour s'en sortir, etc. Et donc, en fait, les individus étaient pas du tout, étaient vus comme des victimes d'un système à l'époque. Et donc, comme Anne Edou le disait, dans un contexte effectivement de chômage de masse et de mobilisation pour faire émerger le problème de la pauvreté. Et effectivement, ce problème-là, comme vous le dites, il s'est transformé très vite, il s'est cristallisé autour du problème de l'emploi. Et en fait, le RMI était alors accusé en fait quasiment d'empêcher en fait les publics d'accéder à l'emploi, de les maintenir dans une condition d'assistance. Et c'était aussi autant une critique du dispositif qu'une critique des allocataires. En fait, c'était la critique du fond qui était que les allocataires ne seraient pas assez motivés, seraient trop paresseux, ne fourniraient pas les efforts suffisants pour retrouver un emploi. Et donc, c'est comme ça que ça émerge, en fait. Ouais.
Et alors, justement, très concrètement, Julie Oudot, comment le RSA, on va dire, tente de pallier à ces impressions et potentiellement à ces faits? Est-ce qu'il y a de nouvelles formes de conditionnalité qui émergent à ce moment-là et qui permettent, qui sont présentées vraiment en tant que telles, en tant que pallier les insuffisances du RMI?
Oui, bien sûr. Bah, il y a deux volets, en fait, que Martin Hirsch, qui, à l'origine de la réforme, mettait en avant. Il y a un premier volet qui est vraiment le volet de la prestation, qui était qu'il fallait que le travail soit payant. Donc, on retrouve beaucoup cet argument, mais c'était vraiment un argument très important qui était que dans toutes les conditions, en fait, dans toutes les configurations d'une reprise d'emploi, la reprise d'emploi paye davantage, rémunère davantage que l'assistance. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on a fait en sorte que les allocataires du RSA, du futur RSA qui reprendrait un emploi, puissent cumuler en fait une partie de leur revenu avec la prestation sociale. Donc ça, c'est la première révolution de Martin Hirsch. La deuxième révolution, entre guillemets, qui a été annoncée, mais qui justement là est victime de balbutiements, etc., c'est le volet accompagnement. Et donc là, c'est réaffirmé en fait, mais c'est pas du tout une nouveauté. En fait, c'est plus un prolongement de ce qui était déjà annoncé dans le RMI, mais l'idée qu'il fallait encourager davantage à l'emploi. Et donc déjà à l'époque, en fait, ce que dit Macron, c'est une sorte de musique qu'on entend depuis longtemps, mais qu'il fallait que l'accompagnement soit meilleur, soit plus intensif, etc.
Anne Hédoux, c'est un point important et d'autant qu'on va l'aborder aussi dans le cadre de cette réforme très récente depuis le 1er janvier 2025. On peut dire que dès les origines, dès 2009, il y a une logique de droit et de devoir de fait qui s'instaure et qui accompagne la mise en place de ce RSA. Là, il y a déjà une forme de contrat, en fait.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que on met en avant l'idée que les allocataires du RSA ont des droits à une allocation, mais qu'il y a une contrepartie, qu'ils ont des devoirs, et que ces devoirs, bien de plus en plus dans l'esprit du législateur, ça va être de retourner à l'emploi. Et donc, on va entendre l'idée qu'on ne doit pas, quand on est au RSA, refuser une offre raisonnable d'emploi, alors même que on n'est pas face à un public qui est toujours en capacité d'accepter un emploi. Parce que beaucoup d'allocataires ont des problèmes de santé. On entendait tout à l'heure une jeune femme qui parlait de ses problèmes de santé mentale. Beaucoup ont des contraintes familiales, parfois les deux. Des contraintes familiales, ça peut être la garde des enfants, ça peut être des enfants malades, ça peut être des personnes dépendantes au foyer. Enfin voilà, les contraintes de ces allocataires sont très nombreuses et finalement, l'idée de les activer, de dire que on doit, chaque heure de travail supplémentaire doit payer, qu'ils doivent faire 15 heures d'activité par semaine aujourd'hui, ça occulte les contraintes qui sont celles de beaucoup d'allocataires et qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas vraiment en capacité de dégager ne serait-ce que 15 heures par semaine pour une activité. Là, c'est sans parler, on va sûrement y revenir, du contenu
de cette fameuse activité
que le service public de l'emploi et de l'insertion peut leur proposer.
Mais alors justement, Anne Hédoux, en 2024, le RSA concerne environ 1,8 million d'allocataires, soit près de 4% de la population active en France. Qui sont les bénéficiaires? Vous avez commencé à brosser, à faire sortir quelques aspects de cette population-là. Est-ce qu'on sait qui sont ces allocataires-là très concrètement? Est-ce qu'il y a des profils sociologiques, on va dire, qui ressortent?
Alors, 62% des allocataires sont des personnes seules. Un quart des allocataires sont des familles monoparentales. Dans l'écrasante majorité, c'est des mères de familles monoparentales. On a 3% de couples sans enfants et 11% de couples avec enfants. Donc, dans ces allocataires, il y a plus d'un tiers qui sont des familles. Et donc, l'idée même qu'on puisse sanctionner ces familles en les privant ne serait-ce que temporairement de l'allocation, ça veut rien dire d'autre qu'on va supprimer les ressources d'un foyer dans lequel il y a des enfants. Alors même que le taux de pauvreté des enfants est élevé, et il l'est particulièrement dans les familles monoparentales. Donc voilà, dans ces couples, on a souvent des contraintes qui sont d'ordre familial. et dans les couples et surtout pour les mères de familles monoparentales, et puis dans les personnes seules, ben on a très souvent un cumul de difficultés, des personnes qui ont un faible niveau de formation, qui peuvent avoir des problèmes de mobilité, de surendettement, des problèmes de santé, que ce soit santé mentale ou autre. Donc voilà, on a vraiment une diversité extrême au sein des allocataires. On a aussi, faut pas l'oublier, c'est pas uniquement des personnes en très grande difficulté. Il y a aussi un volant d'allocataires qui sont des jeunes, qui n'ont pas de droit à l'assurance chômage, qui ont passé 25 ans, mais qui ont eu une trajectoire professionnelle trop précaire, et qui vont être dans le dispositif pendant quelques mois, et ensuite vont en sortir. Hein, voilà. Donc il y a vraiment une très grande variété des allocataires du RSA, et très souvent, dans les réformes, on a un peu une logique de, comme on dit, one fits all, c'est-à-dire lissage, quelque chose qui va convenir à tout le monde, et ces 15 heures d'activité, en fait, ça peut pas convenir à tout le monde. Précisément.
Et ce qu'on comprend dans cette diversité de profils, alors non seulement sociologique, qui a une dimension extrêmement importante qui rentre aussi en ligne de compte, c'est celle de la temporalité. Dans ce que vous nous dites, Anedou, il y a à la fois ces jeunes de plus de 25 ans qui, de fait, sont au RSA, mais au RSA comme un tremplin, peut-être comme un petit sas avant d'être intégrés sur le marché du travail. Et puis il y a des personnes pour lesquelles la situation est beaucoup plus pérenne, on va dire, au RSA. Ça, Julie Oudot, c'est aussi une dimension qu'on a du mal à prendre en compte, cette idée de temporalité. Est-ce que, initialement, dans la conception du RSA, il y avait cette idée que le SAS serait la règle générale, on va dire, que la courte durée serait la règle?
Alors, c'est vraiment une question très importante parce que le RMI puis le RSA n'ont jamais été conçus comme des allocations de longue durée. Ça a toujours été conçu comme des allocations provisoires qui étaient censées donc accompagner vers le marché de l'emploi, etc. Il n'empêche qu'effectivement, vous l'avez rappelé même au début de l'émission, que un certain nombre d'allocataires se maintiennent dans le dispositif. Ils sont en fait très nombreux à se maintenir dans le dispositif pendant plusieurs années, donc 2, 3, 10 ans.
Enfin, oui, je crois qu'ils sont 15% à être dans le dispositif, comme vous dites, depuis plus de 10 ans.
Donc exactement.
C'est pas négligeable.
Tout à fait. Donc, c'est les allocataires de longue durée à partir du moment où on est dans le RSA depuis plus de 2 ans. C'est comme ça qu'on les appelle. Et en fait, cette question-là du maintien, elle est devenue en fait peut-être l'un des problèmes les plus mis en avant. En fait,
ça qui est vu comme le dysfonctionnement majeur.
Exactement. En fait, on est passé du problème d'allocataires qui pouvaient rentrer dans le dispositif, qui était un problème important. Et ensuite, ça s'est déplacé pour plutôt se cristalliser autour du problème de leur maintien. C'est-à-dire que le RSA... quasiment créer une sorte de dépendance et qu'on n'en sortirait pas et qu'il y aurait un cercle vicieux du temps qui passe. C'est-à-dire que plus on reste au RSA, plus on reste au RSA et les chances de sortir du RSA s'amenuisent. Et donc, en fait, se formalise vraiment cette idée-là qui est très importante de l'évaluation de ces dispositifs, de ces politiques publiques, qui est que le temps devient un élément très regardé. On va regarder à partir de combien de temps les chances diminuent d'en sortir. Et donc, on se met à me dire qu'à partir de 2 ans, justement, les chances diminuent. Et donc, la question de la durée, elle est très importante. Et en même temps, elle vient cacher d'autres variables qui ont été mentionnées. Par exemple, les problèmes de santé qui sont très, très importants. Et puis, les problèmes d'autres problèmes, en fait, qui peuvent s'aggraver avec le temps, mais qui sont aussi là dès le départ pour cette population. Deux tiers, en fait, des allocataires mentionnent des freins qui ont été mentionnés ici.
On va revenir tout à fait sur ces freins qui sont de nature assez différente. On voit qu'il y a des facteurs à la fois personnels, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus structurels et aussi liés à des questions très géographiques également. Mais en tout cas, on comprend. Et ça, c'est important pour comprendre aussi comment on en arrive à des idées de réforme telles que celles qu'on est en train de vivre depuis le 1er janvier 2025. On comprend qu'il y a un premier dysfonctionnement donc qui est identifié, qui est celui de ces potentiels pièges, de ce potentiel enfermement via la question de la durée, avec cette idée que qui est au RSA continuer à l'être dans une sorte d'accoutumance, on va dire, à ce dispositif-là. Il y a un second écueil que je voulais voir avec vous, parce que ça va être assez simple finalement de l'aborder, c'est que selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2022, 65% des bénéficiaires du RSA vivent sous le seuil de pauvreté, on en parlait, soit une part 4,4 fois plus élevée que dans la population générale. 51% des bénéficiaires du RSA sont en outre considérés comme pauvres en conditions de vie, une part 5 fois plus élevée que pour le reste de la population. Anedou, là aussi, c'est un fonctionnement, c'est une forme d'échec pour le RSA.
Alors, il est très clair que être dans un minimum social ou être même bénéficier d'une allocation chômage, c'est être exposé à un très grand risque de pauvreté. Voilà. Donc l'idée qu'on a beaucoup mis en avant, que chaque heure de travail doit rapporter, qu'on allait sortir de la pauvreté par l'emploi, enfin ça c'était vraiment le discours qui prédominait au moment de la mise en place du RSA en 2008-2009. C'est un discours erroné. On n'a peut-être pas voulu voir qu'il y avait une pauvreté laborieuse en France qui est très importante et qu'on a quand même près de 17%, peut-être même un peu plus aujourd'hui, d'allocataires du RSA qui travaillent. Donc voilà, être allocataire du RSA, c'est pas forcément ne pas travailler. Et travailler, c'est pas forcément sortir de la pauvreté. Voilà. Parce que, pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire non seulement parce que il y a beaucoup d'emplois précaires, donc on a notamment des jeunes qui sont exposés ou des femmes qui travaillent à temps partiel, qui sont exposées à ces emplois précaires, mais aussi quand on vit en famille ou avec une famille nombreuse, la pauvreté, elle dépend du revenu, comparé à la composition du foyer. Donc, par exemple, quand un seul des parents travaille et qu'il y a une famille nombreuse, c'est une configuration qui expose à la pauvreté au moins autant que le bas revenu d'activité, la précarité de l'emploi, etc. Et puis, les familles monoparentales, elles cochent un peu toutes les cases, hein, parce que beaucoup de mères de familles monoparentales sont précaires. Et même avec un emploi, elles sont en difficulté, soit pour en termes de revenus, soit pour combiner leur vie familiale et leur vie professionnelle.
Mais Anne-Edou, à partir du moment où on a conscience de toutes les difficultés que vous venez d'évoquer, qui sont liées à la structure familiale ou à la situation particulière des individus, à partir du moment aussi où on a ces chiffres sur la pauvreté qui sont quand même extrêmement frappants et qu'on ne peut pas nier, pourquoi on ne se dit pas tout simplement oui, de fait, le RSA a une fonction de filet de sécurité majeur, que c'est cela qui prévaut, et pourquoi on a de nouveau cette vision beaucoup plus de tremplin, on va dire, beaucoup plus que de filet, alors que même les chiffres de la pauvreté semblent indiquer que c'est un minimum, en fait, tout simplement.
Oui, c'est un minimum, et puis je crois qu'il y a aussi une vision très individuelle, responsabilisante de la pauvreté, qui veut que, d'abord, on regarde pas le fait qu'il peut y avoir des familles, qu'il peut y avoir des contraintes familiales, et finalement... chacun est renvoyé à sa responsabilité individuelle de trouver un emploi, qui fait sortir de la pauvreté. Et puis, pour les mères de famille, éventuellement, de la remise en couple, puisqu'il y a beaucoup de façons de sortir du RSA. Il faut pas l'oublier. Ça peut être obtenir un emploi, améliorer son revenu d'activité. Ça peut être aussi se remettre en couple pour une mère de famille monoparentale avec quelqu'un qui a davantage de revenus. Ça veut pas dire que cette mère de famille monoparentale, individuellement, elle aura des revenus suffisants, parce que les couples ne mutualisent pas toujours leurs revenus, surtout quand il s'agit pas de ses propres enfants, dans le cas d'une mère de famille monoparentale qui se remet en couple. Mais en tout cas, c'est de cette façon-là qu'est évaluée la pauvreté, que ce soit la pauvreté monétaire des statistiques, la pauvreté en conditions de vie, ou la pauvreté administrative, c'est-à-dire les seuils qui permettent de percevoir ou pas le RSA. Au Royaume-Uni, on a d'ailleurs documenté le fait que certaines mères préfèrent rester seules, précisément pour avoir le contrôle de leurs revenus.
Oui,
le cas aussi en France, mais on n'a pas de travaux là-dessus, ou très peu.
Est-ce qu'il y a effectivement une piste de réflexion assez certaine, on va dire, sur le lien entre ces deux phénomènes? Donc on a vu deux formes de dysfonctionnement, un dysfonctionnement qui peut être considéré comme celui de la durée où on reste au RSA, celui de cette lutte contre la pauvreté ou la très grande pauvreté. En revanche, ce fameux rapport de la Cour des comptes estimait qu'une des réussites du RSA, c'était ce qu'on disait un peu au début, cette idée qu'avec le complément, que le RSA, parce qu'il est calculé aussi en fonction du revenu lorsqu'on retrouve un emploi, avait permis finalement de lisser, d'harmoniser en tout cas les aides sociales et notamment de reconfigurer les aides locales. Alors normalement, les aides locales créent des effets de seuil, en fait.
Je dirais que les idéologies ont la dent dure.
J'allais vous poser la question, Alice. Vous étiez d'accord avec ce constat de la Cour des comptes sur cette trappe à inactivité qui avait été évitée grâce à la mise en place du RSA?
Non, parce que Alors déjà, le RSA, quand il a été mis en place, ça a été avec la promesse que on ramènerait beaucoup de monde à l'emploi et qu'ainsi on lutterait contre la pauvreté. Mais les évaluations du RSA sont vraiment sans appel. C'est-à-dire que le RSA n'a eu aucun impact zéro sur le taux de retour à l'emploi des allocataires. Et il a eu un impact tout à fait marginal sur la pauvreté. Donc, enfin, le RSA n'a pas du tout tenu ses promesses. Je suis pas en train de dire qu'il faut le supprimer, très loin de là. Mais en tout cas, voilà, les promesses qu'il avait que, ben, finalement, grâce aux incitations, on allait ramener les gens vers l'emploi, elles n'ont pas été tenues. Elles n'ont pas été tenues pour une raison simple, qui est l'erreur de diagnostic initiale. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère que retrouver un emploi et sortir de la pauvreté, c'est une responsabilité individuelle, on se trompe. Les individus ne sont pas responsables de leur situation au regard de l'emploi. Quand il y a un chômage important, c'est encore le cas aujourd'hui, même si le chômage a baissé, bon, peut-être qu'il remonte, le problème n'est pas là, mais finalement, on n'a jamais autant d'emplois à mettre en face du nombre des chômeurs ou du nombre des allocataires du RSA. Donc l'emploi fait encore défaut en France. Et en plus, je dirais qu'avec les différentes réformes, on espère, on met en avant les difficultés de recrutement, les pénuries de main-d'œuvre, et on espère finalement que grâce au public les plus en difficulté, on va réussir à pourvoir les emplois les plus difficiles à pourvoir. Parce que là où il y a des difficultés de recrutement, c'est précisément qu'il y a des conditions de travail difficiles.
De pénibilité.
Et là encore, ben, on oublie cette spécificité du public RSA, en tout cas de ce public qui reste longtemps au RSA, c'est que c'est un public qui est contraint, qui a des problèmes de santé, des contraintes familiales et qui pourra pas occuper les emplois les plus difficiles.
Reste donc à savoir pourquoi précisément les allocataires du RSA restent éloignés parfois pour une durée assez longue du marché du travail et dans quelle mesure ce fameux RSA a été interprété comme une trappe à inactivité. Je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage justement d'une allocataire du RSA qui témoignait dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, c'était en juillet 2011.
Je suis depuis novembre 2005 au RMI et passée au RSA au changement et je vais avoir bientôt 48 ans. Après, j'ai postulé pour des emplois d'accueil et tout ça. On m'a carrément dit, bah, vu mon âge et vu ma tête, je ferais mieux de zapper ce genre d'emploi. Donc, on m'a dit que j'avais pas l'air motivée, que j'avais un visage fatigué. Bah, c'est sûr que quand vous vous restreignez surtout, et puis que ça, vous finissez par être marqué, je veux dire qu'il n'y a jamais rien, il n'y a rien qui bouge, je suis complètement perdue quoi, en réalité. Dire que ça fait 5 ans que je suis sans travail, j'ai fait des petites choses, j'ai fait 2 stages et tout ça, on nous disait que si on faisait des stages, qu'on allait être embauché et tout ça, mais en réalité, tout ça, ça menait à rien. Et le fait qu'on vous dise, ah ben non, vous n'avez pas de travail, vous êtes toujours là, mais secouez-vous. Mais je dis, mais les gens sont dingues, vous êtes tout seul, vous n'avez personne. Et le peu de personnes avec qui vous parlez, c'est des critiques. Et les rares fois qu'on me dit, pourquoi vous ne faites pas les sorties d'école, les personnes âgées, mais je dis, mais c'est que des trucs pour m'enfoncer. Moi, si je veux un travail, c'est un travail à plein temps.
Julie Audoux, ce témoignage raconte beaucoup de choses. Il résume aussi ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a des profils très spécifiques aussi qui bénéficient du RSA. En fait, si on bénéficie du RSA, c'est aussi pour une raison, c'est qu'on est d'un public qui correspond à cette aide. Alors, 40% des bénéficiaires du RSA n'ont aucun diplôme, on l'a dit. 30% environ des allocataires déclarent des problèmes de santé chroniques ou un handicap qui sont autant de freins, on en parlait pour ce fameux retour sur le marché du travail. Dans quelle mesure, Julie Audoux, d'autres facteurs rentrent en compte qui sont peut-être moins d'ordre individuel, puisqu'on dit aussi depuis le début de cette émission qu'il ne faut pas résumer la chose à cela, au pur individu. Est-ce qu'on a réussi à identifier une série de facteurs qui expliquent aussi cet éloignement vis-à-vis du marché du travail?
Totalement. Mais c'est un témoignage vraiment intéressant et qui fait vraiment écho au témoignage que j'ai pu recueillir dans mes enquêtes, en fait, notamment auprès des locataires de longue durée. D'abord, effectivement, on retrouve les freins qu'on a mentionnés depuis le début. Hein. Donc là, ça peut être les problèmes de transport, les problèmes de milieu rural. Là, on n'a pas les éléments, mais de garde d'enfants, etc. Et on retrouve à côté de ces freins un peu traditionnels qu'on regarde, un frein qui est mentionné, entre guillemets, qui est celui donc, du temps passé, c'est-à-dire qui peut engendrer la démobilisation, la fragilisation, mais qui est aussi un indicateur pour le marché du travail comme étant une moins forte employabilité. Et à tous ces indicateurs-là, on peut rajouter ce qui a déjà été mentionné, hein, tout simplement le manque d'emploi, la croissance économique. Quand le RSA a été voté, le nombre d'allocataires a augmenté de 30%. C'était pas que d'un coup, les allocataires avaient plus ou moins de freins, enfin plus de freins pour le coup, mais c'est simplement que le marché du travail était beaucoup moins favorable en fait pour les allocataires du RSA en particulier. Donc ça, effectivement, ça s'explique pas par des facteurs individuels. Mais à ces éléments-là, on peut rajouter un dernier élément qui est peut-être moins commenté parce qu'il implique plus directement les politiques publiques, qui est qu'en fait, à mesure que le temps passe et à mesure que les allocataires aussi apparaissent moins employables, ils sont aussi moins sollicités, moins pris en charge et moins de rendez-vous, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi documenté par la Cour des comptes que vous mentionnez. C'est-à-dire que finalement, on ne fait pas plus pour ceux qui ont moins. C'est même le contraire, en fait. Comme les chiffres le montrent, finalement, moins on est diplômé, plus on reste au RSA, moins on a de chances d'être suivi intensément, d'avoir des rendez-vous, d'avoir des formations. Ça s'étiole avec le temps et ça s'étiole selon les caractéristiques individuelles des bénéficiaires.
Et c'est ce que j'allais vous demander, Julie Oudot, et qui est un point crucial aussi, c'est dans quelle mesure cet accompagnement, ce dispositif entier du RSA a conscience qu'il s'occupe, qu'il s'adresse à un public spécifique. Est-ce qu'il est conçu pour cela ?
Alors, il a conscience en partie qu'il s'occupe d'un public spécifique, bien sûr. Enfin, le RSA a un volet, malgré tout, un accompagnement social. Pendant de très longues années, c'est vraiment les travailleurs sociaux qui avaient en charge les allocataires du RSA, leur accompagnement. Même si ça change, enfin, notamment avec la réforme, ça change complètement. Mais ça a changé avant la réforme. Déjà, moi, dans mes départements d'enquête, les bénéficiaires du RSA, étaient vraiment pris en charge aussi par d'autres professionnels qui n'étaient pas seulement des travailleurs à Pôle emploi, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, mais plutôt par d'autres types de professionnels moins connus, type des coachs, en fait, qui étaient donc des référents un peu particuliers qui avaient justement pour mission de pas du tout faire de social, mais de convoquer très régulièrement, de contrôler aussi beaucoup. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais les deux volets sont très liés, en fait. Et donc ça, même avant la réforme, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a une forme là de paradoxe, Anedou. En fait, ce qu'on avance pour, on va dire, mentionner ou pour qualifier un relatif échec du RSA, ou en tout cas de qualifier son inefficacité, et ne serait-ce que le mot efficacité aussi est parlant, ce sont effectivement les chiffres de retour à l'emploi, ce sont des objectifs chiffrés. Voilà, l'idée qu'il n'y ait que 3,9% par mois de taux de retour à l'emploi par mois, ce qui est bien inférieur aux autres catégories, on va dire, et à la moyenne des demandeurs d'emploi qui est de plus ou moins 8%, je crois. Finalement, il y a un peu ce décalage énorme entre objectifs chiffrés, attente d'efficacité, coaching éventuellement et cette mise en place d'accompagnement, et l'idée que, en fait, le RSA est conçu, enfin, c'est un dernier recours, c'est un filet. Il y a une forme de paradoxe là, Anedou.
Oui, complètement. Enfin, c'est une forme de dévoiement de cette garantie de revenus, et je dirais finalement, c'est aussi pour ça que l'histoire bégaye. C'est-à-dire que comme vous dites, il y a déjà des départements dans lesquels les allocataires sont coachés, d'une certaine façon mis en activité. C'est des décisions qui peuvent être extrêmement politiques. Donc d'un département à l'autre, ça peut changer. Je me souviens déjà en 2010-2011, il y avait dans un département de l'Est, le contrat de 7 heures de travail bénévole obligatoire, avec toutes les péripéties qui avaient été interdites par le tribunal, puis finalement autorisées. Enfin, voilà. Donc finalement, cette histoire des 15 heures d'activité, on fait du neuf avec du vieux, hein, c'est-à-dire que il y avait déjà des départements qui avaient mis des choses en place un peu dans ce goût-là. Il y a aussi le contrat d'engagement jeune qui était sur ces 15 heures d'activité, avec toujours le risque, et là c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui des associations ainsi que la CNDCH qui alertent sur les risques de perte de droits pour les allocataires. Et finalement, si le RSA finit par se traduire par des pertes de droits, on va redécouvrir dans quelques années la grande exclusion et il faudra mettre en place quelque chose d'autre, hein, puisque ben précisément notre constitution fait que c'est une dette sociale, voilà, la collectivité doit fournir un revenu convenable d'existence.
Julie Oudot, on a beaucoup parlé de cette logique un peu descendante, finalement, de savoir comment les politiques publiques s'adaptaient ou non, de fait, à cette catégorie de population. J'aimerais bien savoir, et notamment à travers ce que vous avez pu entendre ou voir sur vos terrains, comment les allocataires eux-mêmes le ressentent. Et je vous pose la question notamment parce que ce fameux rapport de la Cour des comptes, toujours lui, estimait que seuls 29% des bénéficiaires du RSA estimaient que le RSA leur permettrait justement de retrouver un CDD ou un CDI. C'est assez faible, finalement, il n'y a pas cette vision du tout du RSA comme chemin vers l'emploi, on va dire.
Oui, tout à fait. En fait, la plupart des allocataires du RSA sont plutôt même inquiets en fait, des activités qu'on va pouvoir leur demander. Et je pense que la réforme va accentuer ces inquiétudes à ce sujet. En fait, les allocataires, quand on fait des enquêtes auprès d'eux, ils sont plutôt demandeurs en fait, d'un accompagnement ou de rendez-vous qui vont leur sembler utiles dans le cadre de la recherche d'un emploi ou de formation, etc. La question, c'est plutôt, et l'inquiétude, c'est plutôt de se demander si on ne va pas chercher plutôt à les occuper à des activités. Là, on entendait faire des CV, faire des lettres de motivation, etc. C'est tout à fait pertinent dans le cadre de la recherche d'un emploi. Mais la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on a passé 3, 4 heures à le faire, 15 heures, 3 semaines, si on n'en trouve pas, qu'est-ce qui va se passer si on ne respecte pas ces 15 heures d'activité par semaine ?
France Culture.
Ce qu'il y a, c'est qu'on perd beaucoup d'amis, quoi. Enfin, soit des, entre guillemets, amis. Et pour ça, je dis, on fait peur aux gens. Moi, leur peur, à mon avis, c'est qu'ils ont peur. Ça leur arrive aussi. Ça arrive à tout le monde, hein. Personne n'est à l'abri. Hein.
Entendez-vous l'écho ?
RSA, c'est quoi ? Non, on s'enterre et on nous oublie. Mais on est là.
Aliatovine.
Julie Oudot, il y a tout de même une spécificité aussi du RSA. On le disait, je reviens sur ce chiffre parce qu'il dit quand même des choses et il accrédite peut-être aussi cette idée, même si on l'a largement battue en brèche, d'une forme d'enfermement aussi, ou en tout cas de cercle vicieux qui se met en place. 3,9% en termes de taux de retour à l'emploi par mois, alors que le reste des demandeurs d'emploi, c'est 8,2%, mais c'est aussi bien inférieur à tous les autres publics bénéficiant de dispositifs spécifiques, demandeurs d'emploi de longue durée, résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, etc. Il y a donc une forme de spécificité. Dans quelle mesure être au RSA, et là encore, en partant de vos terrains et des personnes que vous avez pu rencontrer, est aussi une forme d'enfermement plus psychologique ? Est-ce qu'il y a une spirale, on va dire, qui se met en place de ce point de vue-là, d'exclusion ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis pas spécialiste pour parler des ressorts psychologiques, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est assez renseigné et qu'on retrouve, en fait, dans les témoignages auprès d'allocataires, qui est que, au fur et à mesure du temps, il peut y avoir une forme de découragement. Enfin, ça a été aussi beaucoup établi par la littérature aussi en sociologie, mais un découragement évident, une perte de sens au fait de rester sans emploi pendant plusieurs années, mais aussi d'être particulièrement stigmatisé en France par un dispositif qui est très stigmatisé en fait. On le retrouvait dans votre extrait d'entretien, mais c'est ce qu'on retrouve vraiment de manière plus générale. Ce qui est très problématique en fait, c'est notamment que tout à l'heure on le disait, l'accent est vraiment mis sur des facteurs très individuels et on vient en fait responsabiliser les gens de leur situation, ce qui rajoute en fait déjà à la situation très délicate, très compliquée et précaire. Cet enjeu-là quasiment moral en fait, enfin moral même du dispositif.
Donc on se retrouve face à une forme de paradoxe, c'est-à-dire un dispositif mis en place pour des populations qui sont par définition éloignées du marché du travail pour des raisons quasiment structurelles, fondamentales, tout en essayant de leur faire retrouver ce chemin alors via des canaux, on va dire, plus ou moins efficaces, puisque c'est le mot qui prévaut. Alors quelle solution envisager et surtout comment éviter que le remède ne soit pire que le mal et ne se mette en place des cercles encore plus vicieux? En somme, que faut-il faire? C'est la question que se pose le groupe La Flemme. Somnifère, un titre du groupe La Flemme. Vous êtes bien sur France Culture. Les bénéficiaires du RSA sont nos homo economicus du jour et nous tentons de comprendre quels facteurs jouent sur l'éloignement durable vis-à-vis de l'emploi et si le RSA peut ou non pallier à certains mécanismes d'enfermement, et ce grâce à la sociologue Julie Oudot et à l'économiste Anne Edou. Alors un bénéficiaire sur 5, 21%, a continué de percevoir le RSA chacune de ces 10 années. Nous l'avons vu, il y a à la fois des facteurs propres à chaque individu, mais aussi des facteurs plus globaux, territoriaux, en termes de politique publique qui touchent à la façon dont on les accompagne. Il faut rappeler, Anne Edou, que ce sont les départements qui sont à la manœuvre lors de la mise en place de ces politiques publiques. Or, on sait très bien, on le sait, que tous ne sont pas égaux financièrement. Est-ce que cela joue aussi sur la qualité de l'accompagnement ?
Alors, certainement, maintenant, c'est pas toujours très documenté, mais en tout cas, il y a à peu près autant de politiques d'insertion qu'il y a de départements pour les allocataires du RSA. Et donc, effectivement, on peut avoir des départements dans lesquels la logique de contrainte ou de conditionnalité est très faible. Et puis d'autres où cette demande de contrepartie qui est faite aux allocataires est très importante. Et comme vous évoquiez les solutions, je dirais finalement, on fait face quand même depuis assez longtemps, je dirais depuis les années 90, à des politiques qui visent à responsabiliser les allocataires, mais finalement pas tant dans une logique d'extension des droits que dans une logique de renforcement des devoirs. Et pour en venir à la réforme actuelle et à ces 15 heures d'activité, il y a un rapport très détaillé qui a été fait par deux cabinets, Pluricité et Amnios, qui est sur les 8 premiers territoires d'expérimentation et qui montre que finalement beaucoup d'allocataires sont satisfaits et satisfaites de ces heures d'activité au moins au début, c'est-à-dire que on s'occupe d'eux et d'elles, on leur propose quelque chose, ça peut être des ateliers CV, des ateliers lettres de motivation, reprise de confiance en soi. Et c'est vrai, on entendait dans le témoignage de l'allocataire tout à l'heure, être au RSA ça abîme, ça stigmatise, et finalement le fait de se voir proposer des activités et des services, ça répond à la demande de beaucoup d'allocataires. Maintenant, dans ce rapport, ils évoquaient le fait qu'il n'y avait pas eu de changement de régime de sanctions, qui décelait pas tellement de retrait de la part des allocataires, mais on sait quand même que plus on leur met la pression pour exiger d'eux ou d'elles qu'ils effectuent des heures d'activité, plus on risque d'avoir des allocataires qui se mettent en retrait, c'est ce qu'on appelle le non-recours. Et puis, sans parler des sanctions, aujourd'hui, on ne sait pas quel va être le régime de sanctions. C'est bien la raison pour laquelle les collectifs et les associations alertent et sont inquiets. Et puis, je dirais, finalement, on a un rapport qui porte sur une année d'expérimentation, mais on a quand même des allocataires qui restent très longtemps. Et la question, c'est quel est le contenu de ces 15 heures ? Parce que 15 heures par semaine, c'est beaucoup. Donc, si on ne construit pas des parcours, si on n'assure pas un droit à l'emploi, qui est aussi dans notre constitution, chacun a le droit d'obtenir un emploi et le devoir de travailler. Si on n'assure pas l'accès à l'emploi, finalement, c'est des activités qui finissent par être vides. Voilà. Elles sont vides pour les personnes qui les suivent, si elles débouchent sur rien. Et elles sont vides aussi, et peut-être surtout, il faut qu'on en parle, pour les professionnels du service public.
C'est ce que j'allais vous demander, Anne Edou, parce qu'on disait qu'il y avait 1,8 million d'allocataires qui vont de fait débouler en fait à France Travail. C'est une masse conséquente d'individus. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des augmentations de moyens, ou est-ce qu'on va devoir fonctionner, ou est-ce que les salariés de France Travail vont devoir fonctionner à moyens constants ?
Alors, vous savez comme moi que le budget de la France est ce qu'il est. Que pour la réforme qui est passée l'année dernière, la réforme de France Travail, il n'y a pas eu d'augmentation des moyens sur le budget travail, emploi, insertion. Il y a eu une réaffectation, c'est-à-dire que ce qui était prévu, c'était de supprimer l'allocation spécifique de solidarité et de réduire les droits des chômeurs. Donc, pour le dire autrement, la réforme se finançait sur le dos des chômeurs. Finalement, la SS n'a pas été supprimée pour des raisons électorales. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais en tout cas, on a un contraste énorme entre ce qui s'est passé dans les départements d'expérimentation, où ces départements avaient des budgets, d'après le rapport...
Je crois que c'était 850 000 euros par département.
Un peu plus de 800 000 euros par département expérimentateur. Là, avec la généralisation, on demande... à France Travail de faire beaucoup plus sans moyens, alors qu'on sait très bien que il y a déjà des risques psychosociaux importants à France Travail et d'ailleurs dans tout le service public de l'emploi et de l'insertion, et que par ailleurs on est en présence de professionnels qui, pour celles et ceux qui ont suivi des formations dédiées, n'ont pas des formations qui les prédisposent à sanctionner. Je ne veux pas dire qu'il n'y en ait aucun qui sanctionne et qui soit tous... voilà. Mais en tout cas, on met en place une réforme qui, pour beaucoup de ces professionnels, va à l'encontre du métier qu'ils exercent, qu'ils ont appris. Voilà. Et puis, avec des difficultés majeures qui sont comment proposer 15 heures d'activité par semaine. Alors, d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas France Travail qui va accompagner l'ensemble des allocataires. Ils vont être réorientés vers les départements, probablement vers les structures qui les accompagnaient auparavant. Mais en tout cas, comment on va réussir à mettre en place 15 heures d'activité pour tout le monde? Quel sera le contenu de ces activités? Ça, c'est une grosse question.
D'autant que, Julie Oudot, pour tout le monde, on sait déjà que ce ne sera pas tout le monde, puisque je crois que dans le bilan de ces expérimentations, il y a 30% environ des allocataires qui ne se sont tout simplement pas présentés ou qui n'ont pas pu participer à l'expérimentation. On voit qu'il y a une forme de couche qui ne peut pas être résorbée, en fait, de personnes qui sont définitivement très éloignées, soit des dispositifs proposés, soit du marché du travail de façon générale. Ça, on aura beau expérimenter, c'est un public qu'on ne parviendra pas à récupérer quelque part, entre guillemets.
Totalement, c'est le risque et c'est ce qui se passe déjà en fait avant cette réforme. L'accompagnement plus intensif était déjà accordé aux allocataires dits les plus employables et plus proches de l'emploi, aussi pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire c'est plus avantageux entre guillemets d'investir sur des allocataires.
Oui.
C'est ça en fait, d'efficacité gestionnaire en fait du dispositif, qui est que c'est plus avantageux de mettre des moyens financiers sur des allocataires dits plus proches de l'emploi, et donc on retrouve en fait, on reproduit, on accentue des inégalités entre une population assez hétérogène malgré tout. Et donc, totalement, c'est ce qui va sûrement se renforcer avec la réforme des 15 heures. Et puis, un autre élément qu'on pourrait rajouter pour compléter, c'est que ces 15 heures d'activité, elles auront aussi peut-être tendance, comme on a pu le voir aux États-Unis, mais même dans d'autres pays européens, qui est que ces activités, elles vont devenir en fait une forme d'activité qui se fait en parallèle de l'emploi, c'est-à-dire qu'elles ne prépareront plus à l'emploi tellement, mais elles seront juste des activités occupationnelles qui seront vécues comme quasiment un travail de chercheur d'emploi à temps partiel, un bon temps partiel puisque c'est quand même 15 heures, mais en fait qui peuvent se prolonger quasiment indéfiniment sans conduire à un emploi. Et ça, c'est ce qui a été observé aussi dans d'autres pays où en fait les gens deviennent des chercheurs d'emploi à part entière sans retrouver un travail.
Et puis, il y a retrouver un travail. Et puis, Anedou, il y a aussi la question de savoir quelle qualité de travail on retrouve, quel type de contrat. 41% des anciens allocataires reviennent au RSA après en être sortis. Il y a aussi, alors le CDI est potentiellement un Graal, mais il y a aussi une forme de précarité dans l'emploi, même pour sortir du RSA. Et ce qui explique aussi ces boucles-là, il faut se la poser, cette question de la qualité de l'emploi retrouvé.
D'abord, juste une seconde. Allez-y. Pour revenir sur le contenu des activités. Donc, il y a ces activités CV, lettre de motivation, etc., qui sont des activités de recherche d'emploi. Mais en fait, comme pour le contrat d'engagement jeune, en réalité, dans ces activités, il y a aussi une forme d'institutionnalisation du contrôle social, puisque pour des allocataires qui ne peuvent pas être en activité, on va finalement entrer comme heure d'activité, le fait d'aller chez le médecin, de conduire son enfant chez le médecin, etc. Et donc, finalement, il y a quelque chose... Alors, les référentiels, il me semble, sont pas encore disponibles, mais ils intégreront vraisemblablement ça, comme pour le contrat d'engagement jeune et comme dans les expérimentations. Il y a quelque chose d'extraordinairement intrusif, puisque pour les allocataires les plus contraints, on va devoir leur demander de justifier des activités d'insertion dans un sens très très large, mais qui n'ont pas forcément vocation. Envie de révéler à leur conseiller en insertion, etc. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Et puis, quant au retour à l'emploi, effectivement, on a beaucoup mis en avant le fait qu'il y avait un taux élevé de retour à l'emploi. Il faut quand même le comparer avec le fait qu'on a toujours une frange d'allocataires qui travaillent. Et puis enfin, les emplois retrouvés sont, comme très souvent, des emplois précaires, c'est-à-dire temps partiel, contrat court, et puis je dirais même les CDI. Hein, il ne faut pas surestimer la durée de vie des CDI la première année, hein, parce que les ruptures de contrat sont fréquentes en début de CDI. Donc effectivement, les emplois retrouvés ne font pas toujours sortir de la pauvreté, on l'a dit. Ils font pas toujours non plus sortir de la précarité et on a effectivement pour un certain nombre de personnes des allers-retours entre l'emploi et un revenu suffisant pour sortir du RSA et puis un emploi qu'on combine avec le RSA ou une situation sans emploi au RSA.
Alors justement, Anne Edou, je vous pose la question parce que vous avez étudié le sujet dans un article et puis aussi parce que une auditrice me l'a posé par mail. Mais dans quelle mesure finalement ce RSA est aussi arrange quelque part aussi les employeurs de leur côté? Dans quelle mesure c'est une forme de travail subventionné qui ne dirait pas son nom?
Alors, au moment de la réforme RSA en 2009, j'ai pas beaucoup le temps, il y avait une grosse inquiétude, notamment des syndicats, sur le fait que ça encouragerait les employeurs à proposer des contrats courts. En fait, ça marche pas tant que ça comme ça. Les employeurs, ils connaissent pas le profil de leurs salariés. La seule chose qu'ils savent, c'est que leurs salariés peuvent combiner un revenu, une aide sociale quelconque, ils n'identifient pas forcément le RSA avec leur revenu d'activité. Donc depuis très longtemps, bien avant le RSA, ils savent qu'ils ont des salariés qui ont une aide à côté. Donc il y a effectivement une forme d'institutionnalisation de la précarité, mais c'est pas seulement le RSA. Par contre, il y a une très forte stigmatisation de la part des employeurs, des allocataires. Pour eux, les allocataires de RSA, c'est des gens qui veulent pas travailler, des gens qui ont un problème de savoir-être, ce qu'avait d'ailleurs très bien repéré l'allocataire qui parlait tout à l'heure.
Julie Oudot, je crois que vous vouliez réagir à ce qui venait d'être dit un peu plus tôt, et puis puisqu'on approche de la fin de cette émission, est-ce qu'on peut en conclure que, par essence, il n'existe pas de catégorie de population qui serait inemployable? Tout est une question de savoir... comment cibler le public concerné?
Oui, ça a été un des mots d'ordre, en fait, de dire que personne n'était inemployable et que l'emploi pouvait être accessible à tout le monde. Et en fait, ça vient aussi cibler toutes les prestations sociales au-delà du RSA qui concernent des personnes qui ne travaillent pas. Ce qui est important de souligner, c'est que cette question-là d'éloignement à l'emploi, en tout cas, elle s'inscrit au carrefour de multiples facteurs et qu'elle est aussi produite... par les politiques publiques qui ciblent en fait plus ou moins leurs efforts, leur budget, leurs ressources sur une partie de la population précaire. Et la réforme, ce qu'elle pose aussi comme question, c'est justement la surcharge de travail aussi administratif aussi pour les professionnels, enfin pas seulement pour les bénéficiaires du RSA, mais aussi pour les agents qui travaillent auprès d'eux et qui vont devoir contrôler, surveiller, relever tous ces éléments.
Eh bien, ce sera sans doute l'occasion d'une prochaine émission sur cette sociologie, finalement aussi des salariés de France Travail, entre autres. Merci beaucoup à toutes les deux, Julie Oudot et Anne Edou, d'avoir participé à cette émission.
Merci.